C'est l'heure du journal d'Haïti des Amériques et c'est avec Anne Verdaguet. Bonjour Anne.
Bonjour Edmond et bonjour à tous. Au sommaire, aujourd'hui, un invité, l'ambassadeur du Venezuela en France. Celui-ci reviendra au micro de Marie Normand sur la situation politique dans son pays. On parlera également dans la revue de presse de la première rencontre entre le président brésilien Jair Bolsonaro et son homologue américain Donald Trump, où là aussi il a été question du Venezuela. La journée de la francophonie en Haïti, seul pays francophone du continent américain où le français est parlé, même si le créole domine très largement les conversations. Le bilinguisme commence à s'imposer. On en parlera avec Amélie Baron qui a rencontré l'écrivain haïtien Gary Victor. On parlera également de ce prix francophone 2019 de l'innovation dans les médias décerné pour la première année à un site internet haïtien Enquête Action par l'Organisation internationale de la francophonie RFI et Reporters sans frontières. On revient donc tout d'abord sur la situation au Venezuela avec cette interview de l'ambassadeur du Venezuela en France, Michel Mujica. Il est au micro de Marie Normand et il revient sur l'occupation par l'envoyé spécial de Juan Guaido et ses partisans de bâtiments diplomatiques du Venezuela à Washington et à New York. Il évoque aussi la panne d'électricité qui a paralysé le pays pendant plusieurs jours et l'avenir proche de son pays. On écoute cette interview.
Bonjour monsieur l'ambassadeur.
Bonjour, buenos días.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Lundi, Carlos Vecchio a pris le contrôle de deux bâtiments qui appartiennent à la République du Venezuela à Washington. Il est l'ambassadeur nommé par Juan Guaido, lui-même reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays. Comment percevez-vous cette administration parallèle que Juan Guaido est en train de constituer au Venezuela et à l'extérieur du pays ?
Au Venezuela, selon moi, c'est plutôt difficile pour lui, parce que Juan Guaido n'a pas d'administration, ni de territoire, ni de population, et encore moins d'armée. Ce qui se passe aux États-Unis est un cas à part, mais c'est une violation claire de la Convention de Vienne. La quasi-totalité des représentants nommés par Guaido ont été acceptés en tant qu'envoyés spéciaux, ce qui est le cas de la France. Envoyé de Juan Guaido, président par intérim en charge de l'organisation d'une élection présidentielle.
Isadora Subillaga a été reconnue par l'État français, vous le disiez à l'instant, envoyée spéciale de Juan Guaido en France. Elle appelle les diplomates de votre ambassade à la rejoindre et elle envisage à terme de devenir ambassadrice du Venezuela en France, de vous remplacer. Votre réaction, vous riez ?
Il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'aucun de mes diplomates ne va franchir le Rubicon, et d'autant moins avec un président autoproclamé qui, au lieu de défendre les intérêts et la souveraineté de mon pays, demande plus de sanctions, sollicite une intervention militaire, et ce qu'il recherche véritablement avec ce type d'action, c'est générer plus de souffrance et plus de difficultés au quotidien pour la population vénézuélienne. Et mon message à Madame Subillaga, c'est qu'aucun de mes diplomates, ni l'ambassadeur qui est ici devant vous, n'a la moindre intention de la reconnaître ni de reconnaître ce président autoproclamé.
On va revenir un instant, monsieur l'ambassadeur, sur cette panne d'électricité géante qui a touché le Venezuela il y a quelques jours. Le président Maduro soutient qu'il s'agit d'un sabotage des États-Unis. Il a promis de présenter des preuves matérielles de ce sabotage. Est-ce que ces preuves existent ?
Je crois qu'on est en train de mener toutes les enquêtes nécessaires. Tous les éléments jusqu'ici laissent entendre qu'un sabotage est très probable en raison de la dimension de la panne. 70% du territoire vénézuélien sans électricité pendant 3 ou 4 jours. C'est donc possible, très possible, comme le fait qu'il y ait bien eu un attentat à l'aide de drones le 4 août 2018. Cela avait été tourné en dérision au début, mais CNN l'a démontré avec la déclaration d'un militaire qui a participé à cette tentative d'assassinat contre Nicolas Maduro, comme il a aussi été finalement démontré que sur un pont à la frontière vénézuélienne, le camion d'aide humanitaire a été brûlé par un cocktail Molotov lancé du côté colombien de la frontière.
Franco-venezolana, el camión fue quemado por una bomba Molotov en el lado colombiano.
Selon une enquête du New York Times.
Sí.
Alors, vous parliez d'une forte probabilité à l'instant, c'est... donc ce n'est pas encore confirmé.
Non, le président a dit que les enquêtes étaient en cours.
Il y a une autre théorie, notamment avancée par l'opposition, mais aussi par plusieurs ingénieurs. Le réseau électrique vénézuélien est dans un état de délabrement avancé. Est-ce que le gouvernement Maduro n'a pas une responsabilité dans l'entretien négligé de ce réseau?
Je
crois qu'il y a bien eu des difficultés ces dernières années en raison du blocus financier pour acheter du matériel, des instruments qui auraient permis de moderniser ce réseau électrique national. C'est clair que cela a pu affecter ce réseau d'une manière ou d'une autre. Et si l'on ne parvient pas à obtenir des pièces détachées, des médicaments, ou qu'on nous empêche de payer les fonctionnaires à l'étranger, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens financiers, mais parce qu'il y a un blocus financier de la part des États-Unis qui empêche beaucoup de choses.
Mais l'état d'urgence qui avait été décrété par l'ancien président Hugo Chavez, il date de 2010.
Eso sí, había un plan durante Chávez.
Oui, il y avait un plan sous Chavez, c'est vrai. Ce plan visait à accroître et moderniser le réseau électrique vénézuélien parce que nous dépendons à 70% de l'électricité générée par le barrage hydroélectrique de Guri. Clairement, nous avons besoin de moderniser le réseau, de le mettre à niveau. Mais en raison d'une profonde guerre économique, de la baisse des prix du pétrole et aussi, parce qu'il faut le reconnaître, il y a eu des erreurs à un moment dans les décisions économiques, cela conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui.
Juan Guaido appelle depuis plusieurs semaines les forces armées à le rejoindre. À ce jour, ces dernières restent loyales au président Maduro. Est-ce que vous considérez cela comme une réussite?
Je crois que Guaido fracassó.
Je crois que Juan Guaido a échoué. Il avait promis de convoquer des élections sous 30 jours et ce président par intérim autoproclamé ne l'a pas fait. Je crois que cela signifie qu'il a mis un terme à sa fonction.
Il y a une réconciliation possible aujourd'hui dans un pays qui semble extrêmement divisé?
Le Venezuela est un pays qui a beau être divisé politiquement, c'est un pays dont la population, quelles que soient les circonstances, a su éviter une guerre civile. Et c'est ce que nous espérons de tout notre cœur, éviter une guerre civile. Les Vénézuéliens sont prêts à affronter toute tentative d'agression, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, pour éviter une confrontation entre frères, parce que cela ne mène à rien. Et l'une des choses importantes que pourrait faire l'Union européenne serait d'en finir avec les sanctions. Elles ne servent à rien. Nous sommes disposé à dialoguer, à trouver une issue, et cela a toujours été ainsi. Je ne veux pas que mon pays se transforme en Afrique du Sud avec un apartheid.
Que mon pays se convierte en une Sud-Afrique, un apartheid.
Votre père était journaliste. Ces dernières semaines, plusieurs journalistes, vénézuéliens, étrangers également, ont été arrêtés, interrogés, parfois expulsés, voire passés à tabac par les forces spéciales, ou les renseignements militaires, ou le SEBIN, la police secrète. Est-ce que vous condamnez ces arrestations?
Je crois que cualquier type d'action de ce type, primero, est lamentable.
Je crois avant tout que toute action de ce type est lamentable et ne mène à rien. Selon moi, le plus important en ce moment, c'est que la vérité soit faite. Je crois que, quelles que soient les circonstances, cela ne vaut pas la peine d'essayer de faire taire quelqu'un de cette manière lorsqu'il a une opinion contraire. Je pense qu'à un moment donné, selon moi, il faut que des enquêtes rigoureuses soient menées pour que de tels faits ne se reproduisent plus.
Para que casos como eso no se repitan.
Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir rendu visite à RFI.
Gracias.
Et bonjour Arim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous nous avez rejoint pour la revue de presse des Amériques, du Venezuela. Il en était également question hier lors de la première rencontre entre le président brésilien Jair Bolsonaro et son homologue américain Donald Trump.
Oui, Donald Trump qui a profité de cette rencontre pour réaffirmer que concernant le Venezuela, toutes les options étaient sur la table. On peut encore durcir les sanctions, a déclaré le président hier à Washington. Une phrase qui est reprise aussi en titre du journal Miami Herald. Dans ce scénario, jusqu'où peut aller la coopération entre le Brésil et les États-Unis? D'après le site do Globo, le gouvernement brésilien n'exclut pas de fournir aux Américains une aide logistique en cas d'intervention militaire. Il faut savoir que jusqu'à présent, le Brésil a toujours rejeté cette option.
Et que pense la presse brésilienne, Arim, d'une manière générale de la visite de Bolsonaro à Washington?
Folha de São Paulo estime que d'une manière générale, le président brésilien a été trop généreux et précise qu'en appuyant une éventuelle opération militaire américaine contre le Venezuela, le Brésil vendrait son âme. Le site d'information Nexo Journal a pour sa part relevé l'admiration qu'a exprimé Jair Bolsonaro pour les États-Unis et surtout pour Donald Trump. Ce dernier s'est montré d'ailleurs très sensible à ce que le Washington Post qualifie de flatterie. Le journal ajoute que la flatterie paye toujours avec le président américain. Après tout, il a promis de faire du Brésil un allié stratégique majeur et peut-être même le faire entrer dans l'OTAN. En attendant, il promet de promouvoir la candidature du Brésil auprès de l'OCDE. En échange, Donald Trump demande aux Brésiliens de renoncer à leur statut spécial au sein de l'OMCE, précise le site d'information Nexo Journal.
Un revers judiciaire pour le géant agrochimique Monsanto, selon la justice américaine. Le désherbant Roundup a contribué au cancer d'un septuagénaire américain.
Oui, Edwin Hardman, qui avait porté plainte contre Monsanto, et un jury lui a donné raison hier, estimant que le malade avait su démontrer que le Roundup était un facteur substantiel de son cancer. D'après le site de la chaîne CNN, le jury se penche ce mercredi sur la responsabilité direct de l'entreprise. De cette décision, Anne, dépend le montant des dommages auxquels le plaignant aura droit, selon CNN. Ce qui est sûr, c'est que ce procès marque un commencement. Des centaines de plaintes devraient être déposées.
Au Guatemala, la justice a lancé un mandat d'arrêt contre l'ancienne procureure générale Thelma Aldana.
Oui, c'est à la une de la presse. Il y a une semaine, Aldana a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 16 juin prochain. Elle est inscrite comme candidate, ce qui lui procure une immunité. Les médias guatémaltèques ont du mal à connaître les motivations de la justice. Le contenu du mandat d'arrêt n'a pas été communiqué, mais selon le quotidien La Hora, Thelma Aldana est accusée de, je cite, détournement de l'argent public de manière continue, mensonge idéologique et de cas de spécifiques de fraude fiscale. Le journal Prensa Libre, pour sa part, souhaite une déjudiciarisation de l'action politique au Guatemala.
Merci à Rim Lipol pour cette revue de presse des Amériques.
RFI à Cap-Haïtien, 100.5 FM.
La journée internationale de la francophonie, on en parle en Haïti, seul pays francophone du continent américain où le français est parlé, mais ce n'est pas la seule langue puisque le créole domine au quotidien et son usage se diffuse désormais dans des domaines techniques. Le bilinguisme commence donc à se formaliser en détruisant au passage certains préjugés. Amélie Baron.
C'est avant tout par sa littérature qu'Haïti brille dans le monde francophone. Pour Gary Victor, le plus populaire des écrivains du pays, cette langue, qui fut celle des colons esclavagistes, n'est plus perçue aujourd'hui comme un outil de domination.
Je pense que l'usage du français a augmenté de la même manière aussi que l'anglais et l'espagnol. Cela est dû au fait à une grande diaspora haïtienne qui est en Guadeloupe, Martinique, Guyane, en France. Donc ce qui fait, par exemple, moi je vivais dans un quartier populaire. Dans le temps, parler français dans la rue, c'était mal vu. On te considérait comme un zuzu à l'époque. Mais maintenant, tu vois des jeunes qui passent dans la rue et qui parlent français. Et ça ne gêne plus personne de la même manière qu'ils pourraient parler anglais ou bien espagnol. Donc, je pense qu'on a un petit peu retiré la question idéologique sur l'usage de la langue française.
Parler français, pas vous l'avez dit intelligent. Parler français n'est pas un signe d'intelligence. Ce dicton créole veut casser les préjugés qui, il n'y a pas si longtemps, poussaient certaines écoles à imposer l'unique usage du français jusque dans les cours de récréation. Une perception élitiste que veut combattre le ministre de l'Éducation, Pierre-Josué Agénor Cadet.
Même ceux-là qui ne parlent pas français, ils sont plus contents d'entendre quelqu'un parler français que de parler créole. Et c'est comme si le français, c'était une sorte de connaissance. Quand on parle français, on est savant. Quand on parle français, on se fait respecter. Et donc, il y avait tout ça. Et on méprisait le créole. Mais aujourd'hui, on se dit, au niveau de l'éducation, nous avons opté pour une pédagogie convergente. Ça veut dire l'enseignement se donne en deux langues. Et le français et le créole.
Ce qui fait que pour la première fois cette année, il y aura une épreuve de créole au baccalauréat. Militant pour que la langue maternelle des Haïtiens ne se limite plus seulement au sujet de la vie quotidienne, Kedi Edmé a lancé en janvier un blog de connaissances scientifiques et notamment chimiques, rédigé entièrement en créole.
On peut parler de science dans n'importe quelle langue parce que à la fin de la journée, il s'agit de concepts qui ont rapport avec notre exploration que l'être humain fait de la nature, les questionnements. Et je pense que tout le monde doit, dans un certain sens, avoir accès à ça. J'essaie et je pense que les linguistes doivent s'y mettre aussi. Et si je pense qu'il y a une barrière, mais tout court, moi j'utilise un mot anglais ou un mot français et je dis voilà ce que ça veut dire. J'explique un petit peu plus ce que cela veut dire en créole, même si j'ai pas le mot créole pour expliquer exactement ce que cela veut dire.
Aujourd'hui, Haïti assume davantage son bilinguisme français-créole. tout en s'ouvrant aussi, via l'émigration de sa jeunesse, à l'anglais et à l'espagnol. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
On va parler à présent de ce prix 2019 de l'innovation dans les médias décerné chaque année par la francophonie RFI et Reporters sans frontières et remis aujourd'hui à Paris à Enquête Action. Ce site internet d'investigation haïtien a été lancé en 1997 par un petit groupe de journalistes. Il propose à ses lecteurs des enquêtes fouillées sur des sujets de société parfois sensibles. L'un de ses fondateurs, Milo Milfort, nous en dit plus.
Enquête Action est un média en ligne de journalisme d'investigation, de journalisme en profondeur et aussi de journalisme en multimédia. Généralement, on fait des reportages sur des sujets inédits. Par exemple, on a déjà traité des reportages sur la transidentité en Haïti. La transidentité, pour certains, ça n'existait pas avant. On a aussi fait un reportage sur la grossophobie qui traite des malaises ou des discriminations dont sont l'objet les femmes rondes et en surpoids. Travailler comme journaliste d'enquête en Haïti, c'est comme mener un grand combat. On fait des enquêtes pour susciter des actions. C'est ça l'idée, parce qu'on croit que le journaliste a un rôle fondamental à jouer, surtout dans le renforcement de la démocratie. En Haïti, travailler comme journaliste n'est pas chose facile. Parce qu'en Haïti, la question de la liberté et d'informer, ou du moins c'est le libre accès à l'information n'est pas facile. C'est pour ça que, et généralement, il est plus difficile de faire des enquêtes. Et puis, l'autre problème qu'il y a en Haïti, c'est la question de l'impunité. L'impunité pousse des journalistes à faire de préférence du journalisme d'actualité. Parce que, globalement, en Haïti, quand un journaliste est tué, il n'y aura pas de suivi.
Milo Milfort pour Enquête Action, au micro de Nicolas Sanders et Cyril Etienne. Et tout de suite l'actualité ultramarine avec la première Caraïbe présentée par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
Avec cette nouvelle journée de galère en perspective pour les usagers des transports du centre de la Martinique.
Oui, aucun bus ne circule, une paralysie conséquence de deux mouvements sociaux pour dénoncer des mauvaises conditions de travail et le manque de bus sur le réseau. L'autre conséquence est l'absence de rotation des navettes maritimes entre les Trois-Îlets et Fort-de-France. Reportage Christine Cupit.
Sur le fond de mer de Fort-de-France, des usagers se présentent au quai d'embarquement dans l'espoir de trouver une vedette maritime pour les Trois-Îlets.
Mais il n'y a pas de navette. Pour une fois, j'ai voulu prendre la navette pour aller de l'autre côté. D'habitude, je prends ma voiture.
Un agent régulateur est là pour informer les clients de la suspension des liaisons sur les Trois-Îlets. Yendi Tarieux.
Oui, comme chaque matin, il y a des gens qui vont à la plage, il y a des gens qui vont au travail. Il y en a qui est un petit peu fâché quand ils vont au travail, donc c'est leur seul moyen de transport. Donc être informé à la dernière minute, c'est un peu énervant, quoi.
Sur le bitume, pas un seul bus. Du côté des usagers, c'est le ras-le-bol général. On se débrouille comme on peut pour se déplacer.
Je ne suis pas content du tout de cette grève. Mais non, il faut arrêter avec ça.
C'est pas bon du tout. Ça fout les gens en bêtise. Et puis les gens ont besoin de travailler. Les gens ont besoin de vaquer à leur occupation.
La suspension partielle du trafic maritime et l'arrêt total du transport terrestre sont le résultat de plusieurs mouvements sociaux. Pas certain qu'on voit le bout du tunnel de sitôt.
On passe en Guadeloupe avec les problèmes de ramassage des déchets dans le sud-bastère de la Guadeloupe, un service qui semble loin, très loin même des standards habituels en France. Ronan Poney.
TEOM, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Pour une maison de même superficie à Saint-Claude avec trois chambres, par exemple, c'est 621 euros par an. Le même type de maison en Gironde, dans une commune proche de Bordeaux, c'est 92 euros avec ramassage et tri sélectif, déchetterie et borne de tri. Sur le territoire de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, 80 000 habitants, rien. Depuis 20 ans, rien n'a évolué. Les ordures ménagères sont ramassées par un même camion, délabré deux fois par semaine, entassé déchets putrescibles, verre, papier, piles, plastique. Tout est entassé dans la même benne et enfoui du côté de la gabarre. Non seulement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans le sud-bastère est hallucinante, mais en plus, chaque fois qu'il y a un ramassage, c'est une claque pour l'écologie de la Guadeloupe. En fait, le service d'enlèvement est réduit à sa plus simple expression, et les déchets envoyés à la gabarre dans une décharge saturée qui devrait être fermée.
Un sujet sur lequel, sans doute, on aura l'occasion de revenir. Bon après-midi, Anne. À demain.
Bon après-midi, Benoît Ferrand. Merci beaucoup pour ce journal La Première Caraïbe. C'est la fin, ce journal d'Haïti et des Amériques. Restez avec nous. L'info continue sur RFI dans un instant avec Pascal Paradou. De vive voix, on revient sur cette journée internationale de la francophonie.